Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Entendre, comprendre, réagir.
Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées.
Cube.
Je suis en compagnie de la nutritionniste Isabelle Huot pour cette docteur en nutrition, j'allais rajouter. T'as été plus vite que moi, Isabelle. Merci d'être là. Là, tu vas nous dire, c'est fort intéressant parce que tu veux nous parler des fois de ces espèces de, tu sais, on mange toutes sortes de choses, un peu n'importe comment. Et là, tu vas nous dire, il y a des aliments qui se consomment séparément ou d'autres, peut-être, qu'on aurait avantage à manger ensemble. C'est un peu ça?
Exactement. Donc, des aliments qu'on gagne à marier. Et je commence, mais c'est drôle, parce que je t'écoutais parler des sardines, là.
Oui, t'es-tu d'accord?
Bon choix, oui. Les sardines. C'est un très, très bon choix pour les oméga-3, pour les protéines. C'est vraiment très, très peu de mercure. Donc, excellente suggestion. Et là, on tombe plus dans le petit déjeuner. Donc, un aliment qu'on gagne à marier, si on prend du gruau, une céréale à déjeuner qui contient du fer, qu'on dit non-hémique, donc qui est très peu assimilable, le fait de joindre une source de vitamine C, et quand je pense vitamine C, ça peut être des clémentines, ça peut être des kiwis, ça peut être des oranges, ça peut être des fraises, ça va maximiser l'absorption du fer contenu dans les céréales. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment recommandé, je pense, aux jeunes aujourd'hui qui sont souvent végétaliens, qui manquent de fer. Il y a de plus en plus de présence d'anémie chez les jeunes, notamment. Marier céréales avec gruau, clémentine ou encore un bol de céréales avec des fraises, c'est gagnant.
Et le matin, on peut-tu le dire, je fais un aparté, mais encore ce matin, je me disais, qu'est-ce que je veux? Je voulais pas manger de toast, je voulais pas manger de pain.
Oui.
Je savais pas quoi manger. J'ai fini par me faire deux œufs vite, là, comme ça, là, avec une demi-toast. Mais
Mais
je peux pas manger de ça tous les matins non plus, là.
Mais ça, c'est excellent parce que, bon, les œufs ont retrouvé leur lettre de noblesse. Là, on peut manger jusqu'à 7-8 œufs par semaine sans problème, à moins qu'on ait une hypersensibilité au cholestérol dans les aliments. Et puis, ben tu sais, le gruau overnight du lendemain, ça, c'est hyper gagnant également. Là, une demi-tasse de flocons d'avoine, une demi-tasse de lait ou boisson de soya enrichie parce que c'est la boisson la plus protéinée, des noix de Grenoble, un peu de yogourt avec probiotiques, puis on se retrouve avec un déjeuner sur le pouce qui est incroyable. Ça peut être juste du fromage cottage avec des fruits aussi. Mm-hmm. Le déjeuner peut prendre plusieurs formes maintenant. On n'est plus juste dans le traditionnel toast confiture.
Oui. C'est ce que je vais manger demain matin grâce à toi.
Ah oui, c'est bon. Moi, je suis fan de ça. Ou un pudding au chia, graines de chia.
Chia, j'ai de la misère un peu, moi, le chia.
Oui?
Mais bon, ouais, je sais pas. Je trouve que. Mais bon, question de goût.
Question de goût, mais en pudding, je trouve ça vraiment bon. Puis là, on peut y aller avec une boisson de soya vanille. Fait comme ça, ça donne un petit peu de sucre sans rajouter de sucre. Ça peut être 3 cuillères à soupe de graines de chia dans une tasse de boisson de soya vanille. Petit déjeuner, collation, et puis ça peut être très, très bien. Deuxième combinaison, couscous et pois chiches, assez traditionnel. Donc, c'est une combinaison, on va aller chercher les acides aminés limitants parce qu'on sait que dans des protéines végétales, on a les acides aminés, c'est quoi le constituant de base des protéines? On sait qu'il manque de lysine dans les céréales et les noix et de méthionine dans les légumineuses. Qu'on combine ensemble, ça fait toute la fourchette d'acides aminés essentiels pour la santé. Sauf que maintenant, on a des nouvelles recherches qui démontrent qu'on n'est pas besoin de combiner au sein d'un même repas, mais ça reste que ça fait partie de la tradition de manger du riz, par exemple, au Mexique avec des fèves rouges puis du maïs, ou de manger au Maroc un couscous avec des pois chiches. Donc, les mariages se font naturellement dans plusieurs traditions culinaires. Là.
Pour les gens qui sont un peu, pas forcément, pour les céliaques, c'est sûr, le couscous de blé, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais moi, j'essaie d'éviter le gluten. Le quinoa, pois chiche, ça marche aussi? Est-ce que ça peut être remplacé?
Oui, ça marche très, très bien. Ouais, puis le quinoa, en fait, c'est une céréale, contrairement aux autres grains, qui a tous les acides aminés essentiels. Fait que c'est vraiment une céréale complète Donc, très, très bon choix. Sinon, ben le sarrasin, on peut tomber dans d'autres types de céréales, mais le traditionnel, le quinoa et pois chiches, c'est un mariage. Puis je suis contente que tu aimes le quinoa, parce que d'habitude, on n'aime pas le chien, on n'aime pas le quinoa.
Oui, écoute, c'est étrange. J'aimais pas ça il y a quelques années. Puis par la force des choses, je me suis dit, faut. Écoute, je pouvais plus manger de couscous, même si j'adore le couscous. Et finalement, je m'y habitue très bien. Je fais mon taboulé, j'ai même un petit dessert, une espèce de petit dessert avec du raisin que je fais avec du lait de soya au coconut. Ouais, c'est vraiment
Un genre de riz au lait.
Oui, un genre de riz au lait. Exact, ouais.
Miam. Ouais. Miam. OK, on continue poivre et curcuma. Donc Richard Béliveau serait content de m'entendre. Oui. Le curcuma, plus je lis sur le curcuma, plus je trouve ça fascinant. Vraiment des propriétés anti-inflammatoires incroyables. Je pense aux sportifs qui ont des blessures. On a plusieurs essais cliniques qui ont démontré que ça diminuait de façon significative l'inflammation. Puis l'inflammation, ben il y a toutes sortes de conditions inflammatoires qui pourraient bénéficier de l'ajout de curcuma. Mais quand on le marie à du poivre, avec la composante active du poivre, la piperine, ça va maximiser l'absorption de la curcumine dans le curcuma. Fait que c'est un mariage heureux. Je pense à des soupes aux lentilles, on met du curcuma, on met du poivre. Souvent, c'est un mariage qu'on peut faire dans toutes sortes de recettes influence indienne ou autre. Je poursuis.
Oui, écoute, moi, je prends des notes. Là. Moi,
C'est bon.
Ben oui, écoute, je fais mon menu de la semaine. Là. Je suis très studieuse, regarde. Oui.
Oui, j'adore ça. Riz blanc et vinaigre. Et ça, c'est drôle parce que quand j'ai fait mon bac il y a plus de 30 ans, on disait, les gens prenaient du vinaigre de cidre de pomme le matin puis on disait, c'est pas bon, pourquoi qu'ils prennent ça? Il n'y a pas vraiment de vertu miraculeuse. Et depuis, la science a évolué puis on s'est rendu compte que quand on prend un repas qui est plus riche en glucides de type un riz blanc. Là, l'indice glycémique, la glycémie dans le sang monte super vite après avoir mangé du riz blanc ou un pain blanc. Quand on marie à du vinaigre, la glycémie, si on suit la courbe de glycémie, va monter beaucoup moins haut, ce qui est mieux, une meilleure gestion de la glycémie. D'ailleurs, c'est une théorie qui est beaucoup vantée par une fille qui est très populaire dans les réseaux sociaux, de Glucose Goddess, qui a écrit plusieurs livres sur la gestion de la glycémie. Et notamment, le fait d'ajouter du vinaigre, donc, riz et vinaigre, au Japon, on fait souvent ça pour les sushis, c'est très bien. Mais on pourrait, si on prend du vinaigre dans une salade, par exemple, avant un repas, la glycémie va moins monter. Si on prend un gâteau qui fait monter vraiment la glycémie, c'est très bon d'avoir du vinaigre dans son repas avant de prendre son dessert qui a un pic glycémique élevé.
Et Isabelle, explique-nous l'avantage de ne pas avoir une glycémie évidemment, pour les gens qui sont diabétiques, on le comprend, mais pour toute personne qui n'aurait pas forcément cet enjeu-là, pourquoi c'est avantageux d'un point de vue de santé?
Bon. C'est surtout avantageux pour les diabétiques, tu as raison. De plus en plus, on essaie de dire, est-ce que plus la glycémie, elle est stable? Est-ce qu'on va avoir un niveau d'énergie qui est plus stable? Mm-hmm. Est-ce qu'on va avoir moins de fatigue, une meilleure concentration? C'est ce que ceux qui vendent cette approche-là vont mettre de l'avant. Dans la littérature, c'est moins clair. Dans la littérature, on sait que pour une personne hypoglycémique, pour une personne diabétique, pour une personne pré-diabétique, il y a beaucoup d'intérêt. Et du point de vue de la personne comme nous deux, là, où on n'a pas de problème de glycémie, c'est plus controversé si on a un intérêt à faire ça ou pas. Parce que la glycémie va rentrer dans les normes là normalement. Là, on est habitué d'avoir une décharge d'insuline pour faire rentrer le sucre, le glucose dans nos cellules. Donc, est-ce qu'on devrait tous adopter la philosophie de la goddesse du glucose?
Écoute, la déesse du glucose, ça c'est très drôle.
Oui. Écoute, elle a vendu des millions de livres traduits partout dans le monde. J'ai commandé ses livres par intérêt, mais il faut suivre sa glycémie en permanence. Je trouve ça un petit peu exagéré. Là, tu prends un capteur de glucose, t'es pas diabétique, puis là, tu regardes tout ce que tu manges, puis tu regardes tes courbes. Il y en a qui suivent ça même quotidiennement sur leur cellulaire avec une application. « Ah, ma glycémie a trop monté. » Pour l'effet que ça peut avoir, c'est un peu intense comme suivi d'avoir un capteur de glucose en permanence sur son bras. Là.
Oui, ouais. Effectivement, un peu intense. Oui,
c'est ça. Je sais pas, je pense qu'on a fini, mais s'il nous reste du temps, sauce tomate et huile d'olive, tout tomate, en fait, avec de l'huile d'olive pour mieux. Oui.
Écoute, ça, c'est la base de la cuisine méditerranéenne. C'est tellement bon. Voilà. L'huile d'olive, tomate. Hein. Oh, tu rajoutes un petit peu d'ail, un petit peu d'herbe de Provence.
C'est tellement bon. C'est ma cuisine préférée de loin. L'huile d'olive va maximiser l'absorption du lycopène, qui est un type de caroténoïde. Et ça, c'est très bien. Puis on a le mariage, par exemple, carotte et avec une vinaigrette sans gras, ça, c'est pas un bon mariage parce que pour absorber les vitamines qu'on dit liposolubles, ben, on a besoin d'un corps gras. Donc, le lycopène s'absorbe mieux. On l'a vu dans des essais cliniques. Dans le sang, le lycopène plasmatique pouvait monter de 80 % quand on joint une source de gras. Puis l'huile d'olive, ben, c'est pas mal un des meilleurs gras, là, avec son profil.
Bon, ben là, écoute, là, maintenant, j'ai faim, c'est officiel.
Oui.
Isabelle Huot, merci beaucoup de nous avoir donné de tous ces trucs-là. Ça donne plein d'idées pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. À une prochaine. Merci, Isabelle.
Tant mieux. Un plaisir. Bye, Isabelle.